Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Bosser Bosser, la nouvelle série de podcasts du Grain. Le Grain est un studio de podcasts, mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde afin de mieux les questionner. Cette série Bosser Bosser propose une exploration dans les profondeurs du travail. Et quel meilleur moment que cette crise que nous traversons, qui a vu entre autres se généraliser le télétravail, pour questionner ce mot d'un usage si courant qu'on finit par oublier d'en interroger le sens. Depuis la nuit des temps, l'homme travaille. Mais le travail a-t-il toujours eu la même signification pour lui ? Déjà, merci beaucoup de répondre présent à l'invitation ce soir. Donc, sur ce sujet qu'on a nommé « défaire et refaire le mot travail », donc avec toi Franck, donc Franck Lebas, linguiste, et toi Gilles Blanchard, militant syndical et ergologue. C'est comme ça que tu m'as demandé de te présenter. Donc c'est vrai qu'on sait, et c'est comme ça qu'on a présenté le cycle, que depuis la nuit des temps, l'homme travaille. Mais est-ce que le travail a toujours eu la même signification pour lui ? Et c'est vrai que souvent, j'anticipe un peu, mais on fait remonter l'origine du mot « travail » au fameux trépalium, dont on a tiré une série télévisée même, donc cet instrument de souffrance en tout cas. Et voilà, on a trouvé ça intéressant de commencer le cycle « bosser, bosser » par clarifier et certains termes. Est-ce que le travail, est-ce que travail et emploi, c'est la même chose ? Est-ce que salaire et indemnité, ce sont les mêmes choses ? Et surtout, peut-être clarifier déjà cette étymologie, sans rien dévoiler, Franck a fait paraître un article qui s'appelle l'arnaque de l'étymologie du mot travail. Donc bon, hein ? J'ai tout dévoilé, mais ben voilà, ben à la limite, ben regarde, on peut commencer comme ça. Mais avant même de rentrer dans le vif du sujet, si vous pouvez très brièvement vous présenter pour savoir d'où vous parlez, et puis on attaque comme ça directement la conversation.
Merci. Déjà merci aux organisateurs et organisatrices pour l'invitation. C'est très agréable de pouvoir s'exprimer en si bonne compagnie. Donc, je m'appelle Franck Lebas. Alors, je me présente à vous avec potentiellement deux casquettes, celle de linguiste, effectivement, ça c'est la casquette professionnelle, et une autre casquette de militant, cette fois-ci pour le salaire à vie. Donc, je fais partie des militants de cette idée politique du salaire à vie. Là, j'en parlerai pas ce soir, donc je vous renvoie à notamment l'association pour laquelle je milite, qui est l'association pour le salaire à vie. Vous mettez salaire à vie dans un moteur de recherche et vous tombez dessus directement. Et les choses que je vais vous expliquer là maintenant sont aussi dans un article que j'ai publié dans un site que j'ai fait pour rassembler mes textes sur la question, qui s'appelle savie.fr. Voilà, donc c'est juste pour vous renvoyer à des références si c'est besoin. Donc je prends la casquette du linguiste pour introduire donc ce cycle, c'est plus pertinent effectivement, et je ne peux pas, en tant que linguiste sollicité sur le mot travail, ne pas commencer par cette fameuse étymologie qui détient un record franco-français, hein, un record de France, qui est celui de l'étymologie la plus connue de très loin de tout le lexique français. Hein. Je suis certain que si je vous demande à toutes et tous de lever la main si vous connaissez l'étymologie du mot travail. Non, là vous faites les timides, mais je suis sûr que, en fait, voilà, à peu près tout le monde, hein, j'imagine. Alors, c'est pas seulement parce que c'était cité dans la présentation, voilà, mais c'est quelque chose de très, très répandu. Et effectivement, il est connu que le mot travail vient du latin tripalium, ou tripaliare au niveau verbal, qui désigne soit l'engin de torture qui est constitué de trois pieux, donc tri et pal. Et ou alors le tripaliare qui consiste à utiliser cet engin de torture pour torturer. Donc je ne peux pas ne pas m'exprimer là-dessus parce que c'est trop gros et il faut commencer par s'interroger sur la raison pour laquelle cette étymologie est très connue. C'est pas un hasard, c'est très certainement parce que ça présente des intérêts pour beaucoup de gens que de diffuser cette étymologie. Mais le problème, c'est que c'est vraiment un outil idéologique qui est fondé sur des choses extrêmement contestables, ne serait-ce que l'exploitation elle-même de l'étymologie. Hein, donc il faut déjà dire deux, trois petites choses sur le fait d'utiliser une étymologie pour faire passer des idées. Ceci repose sur énormément d'erreurs qui sont des erreurs scientifiques, et c'est d'autant plus grave que précisément le procédé consiste à cautionner un discours par une sorte de fondement scientifique. Hein. L'idée, c'est de faire passer une certaine idéologie sur le travail grâce au cautionnement de la partie scientifique qui est l'étude du langage. Et donc, il faut être sûr de son coup si on fait ça. Or, le problème, c'est que c'est vraiment très, très mal parti, notamment par le fait que quand on parle d'étymologie, on renvoie en fait à l'étymon, c'est-à-dire le mot dont vient, d'où vient le mot travail en l'occurrence. Et on véhicule à travers ce discours l'idée que nous tenons là la source du mot travail. Donc déjà, d'un point de vue linguistique, c'est complètement faux, hein. L'étymologie, c'est l'étude de l'histoire des formes antérieures des mots, mais on ne peut pas remonter plus loin que 5000 ans en arrière. Or, le langage, on considère qu'il existe depuis à peu près 100 000 ans. Donc, on n'a pas du tout la source. Ensuite, il n'y a pas du tout, scientifiquement, si vous voulez, cette idée que la source aurait plus trait à la vérité des choses que la forme actuelle. Hein, si c'était vrai que les langues se dégradaient à partir d'une source pure et parfaite jusqu'à arriver aujourd'hui, ça voudrait dire qu'en gros, 5000 ans plus tard, on a atteint le plancher. C'est-à-dire que si les langues se dégradaient, il n'en resterait plus rien. Hein. Donc toutes ces idées sont fausses, hein. Les langues ne se dégradent pas. Donc dire des choses sur le mot travail aujourd'hui n'est pas moins vrai que dire des choses sur le mot travail à l'époque latine, par exemple. Et ensuite, il y a un discours sur l'usage de l'étymologie. Hein. Un linguiste utilise l'étymologie, c'est-à-dire l'histoire des formes antérieures aussi loin qu'on puisse aller. C'est tout, hein. C'est pas plus que ça. Il utilise l'étymologie, le linguiste, simplement pour confirmer que la théorie qu'il a sur l'étude du mot dans la langue actuelle est effectivement cohérente avec ce qu'on sait des formes antérieures. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un mouvement cohérent qui permet d'expliquer pourquoi on aboutit à la valeur du mot aujourd'hui. En gros, il ne faut pas qu'il y ait d'incohérence, de rupture. Si jamais on voit une rupture, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord ? Donc, le linguiste utilise l'étymologie pour confirmer sa théorie dans une attitude descriptive et surtout pas dans une attitude prescriptive qui consisterait à dire « Moi qui sais d'où vient le mot travail, j'en tire des conclusions sur ce que vous devez accepter comme étant le travail aujourd'hui. » Et vous n'avez pas le choix parce que j'ai une assise linguistique, j'ai des preuves, j'ai la source. Donc en fait, si travail égale souffrance, ça veut dire que puisque vous travaillez, vous devez accepter de souffrir et c'est dit dans les mots. Alors ça, c'est un détournement complet de l'étymologie. Le linguiste ne fonctionne absolument pas comme ça. Au contraire, le linguiste décrit de façon complètement neutre et pas du tout avec une attitude... voilà, c'est un peu comme si vous renversiez les choses. Si vous voulez, au lieu de décrire ce qui se passe sur le mot travail, c'est comme si vous disiez « il faut que vous considériez que le travail est ainsi parce que j'ai créé l'étymologie qui va bien ». D'accord ? Alors effectivement, c'est malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est véritablement une arnaque. Il n'y a aucun linguiste sérieux qui va réussir à vous démontrer que le mot travail vient de tripalium. Hein. En fait, pour être tout à fait honnête, il n'y a pas du tout d'attestation du mot tripalium, ni de tripaliare dans les sources qu'utilisent les linguistes. Il s'agit d'une hypothèse, hein, un mot hypothétique qui sert à faire le lien avec une certaine idée qu'on a du mot travail aujourd'hui, mais qui est en fait totalement arbitraire. Donc ça, c'est absolument certain. Je ne suis absolument pas le seul à le dire, à l'avoir démontré. Il n'y a, que des incohérences dans cette histoire qui feraient remonter à tripaliare, hein, notamment des incohérences formelles qui font que si on part de tripaliare, on n'aboutit pas naturellement à travail. D'accord ? C'est des choses techniques que je n'ai pas le temps d'expliquer, mais qui sont assez solides. Cette hypothèse n'est pas du tout cohérente avec la diversité des données qu'on a sur ce mot. Hein. Ce que fait un linguiste sérieusement, c'est qu'il étudie les usages du mot travail dans un certain cadre linguistique, dans une certaine langue, par exemple aujourd'hui. Et aujourd'hui, on observe différentes significations pour le mot travail, différentes façons d'utiliser le mot travail. Et en fait, qu'est-ce que c'est que le sens du mot travail pour un linguiste aujourd'hui ? C'est ce que fait valoir un locuteur d'une activité par le fait de l'appeler travail, par le fait de dire « je travaille » ou « c'est du travail » ou « c'est un travail », je fais valoir un aspect, une dimension de ce que je désigne dans un certain cadre argumentatif. Je cherche à orienter mon interlocuteur vers une certaine optique sur l'activité que je désigne et j'utilise le mot « travail » pour valoriser cette optique. Et en l'occurrence, on n'observe pas du tout le fait que le mot « travail » valorise l'optique de souffrance. Donc, ce n'est pas du tout cohérent de partir de cette hypothèse. Ce serait plutôt une démonstration de rupture. Ensuite, il y a plusieurs sens du mot travail. Quelqu'un a noté dans les post-it qu'effectivement, travail a un sens très, très peu usité, mais qui existe dans le domaine agricole, qui consiste à désigner un engin qui consiste à immobiliser les animaux. Effectivement, là, on peut identifier assez facilement une source étymologique qui est assez solide, qui est celle du latin trabs, qui veut traps, c'est écrit T-R-A-B-S, qui désigne une poutre, c'est-à-dire quelque chose qui sert effectivement à entraver, ça a donné traver et entraver, traps. Et donc le mot travail, effectivement, est une des variantes d'un terme agricole qui désigne effectivement alors quelque chose qui n'est pas du tout destiné à faire souffrir l'animal, pas du tout. Il s'agit de l'empêcher de bouger pour le soigner. Donc on n'est pas sur une thématique de supplice. Là. Ensuite, il y a le fameux sens du travail d'enfant, c'est-à-dire la désignation de cette phase terminale de l'accouchement, notamment, plutôt chez les hommes, chez les femmes et chez les humains, je veux dire, chez les femmes, qui est censé conforter l'idée que travail veut dire souffrance, puisqu'il se trouve, effectivement, c'est indéniable, je pense que toutes les femmes ici qui ont accouché pourront le confirmer, c'est vrai que ça doit faire mal. Apparemment, vu de l'extérieur, ça n'a pas l'air d'être une partie de plaisir. Donc, effectivement, c'est de la souffrance. Mais est-ce qu'un locuteur qui dit « Madame, entrez en salle de travail » ou « Alors, attention, le travail commence », est-ce que ce locuteur est en train, dans son discours, de faire valoir l'aspect souffrance de ce que la femme va endurer ? Il n'en est pas du tout certain parce que ce qu'on désigne est extrêmement complexe. Il n'est pas du tout sûr que ce que dit le locuteur à ce moment-là, ce soit cet aspect-là de l'argumentation. Parce que par ailleurs, il y a quand même un enfant qui naît dans le processus. Il n'y a pas que la femme qui souffre. D'accord ? Donc on peut faire des hypothèses sur, voilà, il y a peut-être d'autres aspects qui sont faits valoir. Ensuite, dernier argument, c'est l'indice de l'anglais « to travel », travel, qui forcément, c'est à peu près incontournable, vient de français. Et il est très difficile de connecter l'idée de voyager, « to travel », voyager, avec l'idée de souffrance ou de supplice. C'est vraiment très tiré par les cheveux. Donc grosso modo, cette idée selon laquelle le travail vient de souffrance est totalement inventée. Il faut lui substituer d'autres hypothèses qui sont en l'occurrence beaucoup plus convaincantes. Je n'ai pas le temps de développer, mais je vous le dis juste en quelques mots. Il suffit juste de segmenter tra et vai, c'est-à-dire tra, c'est la variante populaire de trans en latin qui veut dire à travers. Donc il y a l'idée de passage, de transition. Alors bien sûr que transition, ça implique résistance, ça implique effort, mais pas forcément supplice. C'est pas, là, on va trop loin si on dit supplice ou souffrance. Et puis, vaille est tout à fait connectable avec val au sens valer, dévaler, c'est-à-dire l'idée d'un mouvement, d'un avancement, qu'on retrouve aussi sous la forme bal avec balader, balade. Et donc, on a, si vous voulez, dans les deux composantes du mot travail, tout à fait ce qui est nécessaire pour expliquer que, par exemple, s'agissant du travail d'enfant, c'est-à-dire l'accouchement, il s'agit effectivement de franchir un obstacle, une frontière, d'avancer, de se projeter dans un autre lieu en ayant accompli un certain effort. Et avec ça, vous expliquez tous les emplois courants du mot travail, au sens travailler le bois, faire un travail, etc., le travail d'enfant. Et puis, l'anglais « travel », évidemment. « Travel » est tout à fait expliqué par cette segmentation en trans et val. Donc, l'idée, si tu veux, t'as une sorte de motif avec deux assises. D'une part, l'idée de déplacement, donc d'avancer, et ce que moi, je raccorderais avec certaines des idées qu'on a vues sur les post-it dans le sens de trouver un rôle, trouver une place, aller vers un site, se situer. Donc ça, c'est val ou bal, qu'on retrouve à l'envers avec lab, qui a donné labeur, labourer, élaborer, etc. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une solidité linguistique, lexicale autour de cette idée. Et puis le préfixe trans, qui veut dire à travers, franchissement, donc dépassement d'une certaine résistance. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement se balader, se déplacer, mais c'est se trans-balader, c'est-à-dire se trimballer. Pour moi, le mot le plus proche du travail dans le français contemporain, c'est trimballer, qui donnait aussi traboule, donc la traboule lyonnaise, le passage difficile qui permet d'atteindre des sites intéressants, d'échapper aux Allemands, etc. Donc là, on a une hypothèse qui est beaucoup plus convaincante, qui est très cohérente, qui peut se connecter à une véritable étymologie sans heurts et sans rupture, et qui est infiniment plus convaincante que l'idée de tripalium. Alors, vous aurez tous et toutes repéré les auteurs de cette hypothèse sur le tripalium, hein, c'est clairement l'Église catholique, hein, qui a imposé cette lecture. Pourquoi ? Parce qu'on connaît très bien le rapport entre l'Église catholique et la notion de souffrance, hein, de supplice, de rachat des péchés, de rapport à... Voilà, il faut enfanter dans la douleur, mesdames, hein, dit l'Église. C'est un vrai discours idéologique très puissant qui sert une certaine idée qui va bien au-delà de l'Église, bien entendu, mais le coupable, l'auteur de cette arnaque, c'est clairement un discours religieux, ça j'en suis à peu près certain, c'est un peu gonflé de le dire comme ça, c'est pas scientifique, mais moi je pense que l'auteur est identifié. D'accord ? Donc voilà pourquoi je trouve important d'allumer un contre-feu pour ne pas laisser cette idéologie prendre le mot travail en otage. C'est un petit peu, je trouve, exagéré et pas de caution scientifique sur cette idée-là, à mon avis.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à commenter, laisser une note sur Apple Podcasts, 5 étoiles de préférence tant qu'à faire, et surtout à venir nous voir au grain, en vrai. On se retrouve très vite pour la diffusion de la prochaine causerie. D'ici là, continuons à cultiver l'art de l'étonnement, du pas de côté, cet art qui nous invite à penser depuis le lieu où nous habitons, mais aussi et surtout apprendre à s'en extirper pour l'articuler à d'autres lieux. Car comme on aime le répéter, on est ensemble. Personne ne peut nous contraindre à nous aimer les uns les autres, mais le fait est que nous habitons un monde commun où tout est lié, où tout est vivant. Allez, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Kambé !